Restons vraiment dans ce moment d'adoration, que nos esprits, Seigneur, puissent être tournés vers toi, parce que le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit veut nous parler, et que vraiment nous puissions être attentifs, Seigneur mon Dieu, au son de ta voix. Oui, fais taire en nous toutes ces rumeurs, Seigneur mon Dieu. Nous voulons être à ton écoute, Seigneur mon Dieu. Rends-nous, Seigneur mon Dieu, sensibles à ta voix, Seigneur mon Dieu. Je sais que maintenant tu parles dans nos cœurs et que vraiment, Seigneur mon Dieu, notre intelligence, eh bien, soit orientée vers toi, Seigneur. Oui, nous voulons recevoir de toi, Seigneur mon Dieu, des réponses à nos besoins, Seigneur mon Dieu. Nous savons que Père, ce regard, eh bien, tu l'as tourné vers nous, Seigneur mon Dieu, et avec toute cette compassion, avec tout ton amour, Seigneur mon Dieu, tu veux que chacun d'entre nous puissions être complètement épanoui en toi, Seigneur mon Dieu. Oui, nous voulons, Seigneur mon Dieu, te voir œuvrer dans nos vies, Seigneur mon Dieu, être, Seigneur mon Dieu, vraiment des êtres spirituels, tournés vers toi, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, et continue ton œuvre en chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu. Mets en nous ce cœur bien disposé, et que vraiment, Seigneur mon Dieu, également, Seigneur mon Dieu, David, puisse, Seigneur mon Dieu, parler en ton nom, et que ces paroles que tu as posées sur son cœur, eh bien, puissent, Seigneur mon Dieu, nous faire du bien. Oui, Jésus, parle-nous, Seigneur mon Dieu, au travers de la bouche de ton serviteur, Seigneur mon Dieu. Nous sommes à ton écoute, Seigneur. Oui, Père, bénis vraiment ces moments, Seigneur mon Dieu, et que ton esprit, ton Saint-Esprit repose, Seigneur, sur chacun d'entre nous, Père. Vraiment, sois béni, sois loué, sois adoré, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu es et pour ce que tu fais, Seigneur. Amen.
Voilà, ce matin, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Je pense que, on ne peut pas souvent, mais je pense que le Seigneur mérite en tout cas nos acclamations et notre louange. À lui seul soit la gloire. Voilà, je propose d'ouvrir la parole de Dieu ce matin. C'est une prédication qui est pas simple, mais j'ai été encouragé par les prières là et certaines paroles, certains chants aussi. Et voilà, Dieu me conforte en me disant parle, et c'est ce que je vais faire du coup. Le sujet de ce matin est pas simple. Vous allez me dire oui, à chaque fois c'est pas simple. Peut-être encore particulier aujourd'hui. C'est un sujet qui m'a beaucoup interpellé, encore plus cette semaine. Je vous raconterai pourquoi. Mais un sujet aussi qui doit aussi nous réveiller et peut-être aussi être sensible, en tout cas à cela. Voilà, on est sur la thématique, comme vous le savez, sur les obstacles à la sanctification. Et j'essaie d'aborder voilà les péchés qui viennent de nous-mêmes. On abordera ensuite, c'est la dernière prédication d'ailleurs sur ce sujet-là, après on abordera les obstacles liés au diable, et ensuite l'influence du monde, mais quelque part la première étape, la première pas, c'est le péché qui vient de nous. C'est nous qui sommes ici les premiers acteurs de ce que nous faisons de mal, et il n'y a pas des fois à accuser le diable quand c'est nous qui sommes fautifs. Je vous propose de commencer et je vais vous poser cette question, peut-être que vous ne connaissez pas, j'ai découvert au TIC cette maladie en cherchant une illustration. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'artériosclérose? Oui, vous savez. Ah, c'est bien. Alors, je ne sais pas si c'est pour des bonnes raisons que vous savez. Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce que c'est de manière simple? On a des enfants ce matin, donc est-ce que quelqu'un peut expliquer de manière simple ce que c'est? Oui. Tout à fait. Des AVC et oui, c'est ça, tout ça, ou l'arrêt du cœur. Alors, j'ai mis une image, Pauline, tu peux la mettre. Donc voilà, là, j'ai mis la coupe d'une artère. Alors, l'artère, du coup, c'est des gros vaisseaux sanguins qui partent du cœur et qui descendent, du coup, pour irriguer le corps du sang. Et du coup, il y a la paroi ici de l'artère que l'on voit. Et en fait, il y a l'artériosclérose, c'est. Alors, il y a ce qu'on appelle l'athérosclérose. Alors, c'est les dépôts qui se dépose du coup sur la paroi. L'artériosclérose, c'est une maladie qui est encore plus grave, puisque c'est les parois de l'artère qui se rigidifient. Et en fait, ils deviennent plus épais, ça veut dire que là, on a une épaisseur qui est comme cela, ils peuvent du coup s'épaissir et du coup devenir très rigides, et entraîner du coup l'arrêt du cœur, parce que par un manque ici de flux, de pression sanguine. C'est une maladie qui touche les grosses artères, qui amène le sang au cœur, et du coup, ça entraîne ici des conséquences qui peuvent entraîner la mort. Alors, elle peut être préventive, mais c'est une maladie quand même qui est assez grave. Si on ne fait rien, en tout cas, c'est la mort qui attend. Et ce matin, je vais vous parler d'une autre maladie, mais j'ai inventé ce nom, vous ne le trouverez pas dans le dictionnaire. Mais c'est une maladie spirituelle, celle-là, qui ressemble beaucoup à l'artériosclérose. J'ai appelé cela l'attitudinosclérose. Tu peux mettre la diapo ? L'attitudinosclérose, on va voir c'est quoi. C'est une maladie qui nous touche tous. Chrétiens que nous sommes, nous connaissons le Seigneur et pourtant nous pouvons être touchés par cette maladie. C'est quand notre attitude ici se durcit, quand notre comportement se durcit, notre façon de voir la vie, de voir les autres, de voir les circonstances et même de voir Dieu. Et on peut chanter Dieu, louer Dieu le dimanche matin et être atteint par cette maladie. Cette maladie, elle ne touche pas le corps, comme l'artériosclérose, mais le cœur. Et elle rend l'action du Saint-Esprit difficile, presque sans espace, voire même impossible. La personne qui est touchée par cette maladie, elle ne s'en rend pas compte. Quelqu'un qui est atteint de l'artériosclérose, la maladie qu'on a vue avant, du cœur, il ne sait pas qu'il est atteint de cela, il ne sent rien. Il faut faire des check-up pour voir si on est malade ou pas. L'attitude de sclérose, c'est la même chose. L'attitude sclérosée, celui qui en est atteint ne se rend pas compte qu'il en est atteint. Les autres peuvent le voir, et encore on verra que ce n'est pas forcément si simple, mais lui-même ne s'en rend pas compte. Et plus cette maladie progresse, plus notre attitude devient dure, négative, défensive, et va moins laisser l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Celui qui est atteint par cette maladie pense que tout va bien, alors que du coup, au fond de lui, tout se durcit. Il y a des similitudes. J'ai essayé de faire des similitudes avec l'artériosclérose. Et j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Alors, je vais commencer par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que vous savez, voilà, l'artériosclérose, le durcissement des artères du cœur, n'est pas une maladie contagieuse. Celui qui est atteint de cela... Celui qui est assis à côté, il ne sera pas atteint par cette maladie. Ça touche l'individu, c'est pas un virus. Ça peut être génétique ou ça peut être dû au stress ou à différentes choses. Mais la mauvaise nouvelle, quelque part, c'est que l'attitude sclérosée, elle, par contre, elle est contagieuse. Celui qui est atteint d'une attitude sclérosée, négative, peut contaminer tout son entourage. Ce qui fait que même son entourage, des fois, ne peut pas se rendre compte que la personne a une attitude mauvaise parce qu'eux-mêmes commencent à être atteints. Et pour eux, ils trouvent cela complètement normal. Murmures, critiques, pessimisme, amertume, ça se transmet très vite. Et la liste est longue, mes frères et sœurs. Par contact avec quelqu'un qui souffre de cela, nous pouvons devenir la même chose. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que contrairement à l'artériosclérose qui ne se guérit pas, on peut la soigner, essayer de faire en sorte de rallonger la durée de vie, l'attitudinosclérose, elle se guérit. Elle se guérit, et ça, c'est la bonne nouvelle, et le remède, c'est Jésus-Christ. On va le voir ce matin. Jésus est celui qui transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. Celui qui, par son Saint-Esprit, rend nos attitudes souples, vivantes, remplies de son amour. C'est cela que le Saint-Esprit opère en nous. Mais celui qui est sclérosé, il peut croire qu'il vit cela, alors qu'il ne vit rien. Le premier symptôme de cette maladie, vous allez voir que ce symptôme, il est très large, et du coup, on va essayer de décortiquer ce matin les symptômes, c'est le déni. C'est croire déjà que le problème ne vient pas de moi, c'est les autres. C'est toujours les autres. Je vous raconte une histoire. Une histoire assez rigolote. C'est l'histoire d'un vieux monsieur qui fait sa sieste. Jusque-là, rien d'anormal. Et son petit-fils, qui est chez lui, dans sa maison, veut lui faire une blague. Du coup, il va au frigo. Il va prendre un peu de roquefort. Il va le mettre sur la moustache de son grand-père. Bon, il est un peu taquin, le petit-fils. Mais voilà, donc il pose un peu de roquefort sur la moustache de son grand-père, et le grand-père, quand il se réveille, il va se dire « Pouah, ça sent le fromage pourri ici. Comment ça se fait que ça pue le fromage ?» Il va sortir de la pièce, il va aller dans le salon, il va croiser son gendre, il va dire « Mais C'est toi qui as mangé du roquefort ou quoi? Tu pues le roquefort. Il va sortir de la maison, parce qu'il va faire toutes les pièces de la maison, il va se rendre compte finalement que sa fille, elle n'a pas dû aérer la maison parce que toute la maison pue le fromage. Il va sortir dans son jardin et il va faire la constatation que tout le quartier pue le roquefort. Cet homme-là, ce n'est pas de sa faute, c'est la faute des autres. Alors que le vrai problème, c'est lui-même. Il sent mauvais parce que lui-même sent mauvais. Mais pour lui, c'est le problème des autres. Et bien souvent, mes frères et sœurs, on agit comme cela. C'est toujours la faute des autres et on ne se remet jamais en question. C'est un des symptômes de celui qui a l'attitude sclérosée. Si tu penses que tout le monde autour de toi est mauvais, que tout le monde te critique, tout le monde te méprise, tout le monde t'attaque. Peut-être qu'il est temps de vérifier si l'odeur ne vient pas de toi. Peut-être que le problème, c'est toi au final. Peut-être qu'il y a quelque chose en toi qui fait que ça ne tourne pas rond et que le problème, c'est pas le monde, c'est pas les personnes qui t'entourent, c'est pas le diable, c'est pas les gens, c'est toi. Alors c'est sûr que c'est pas la réponse la plus agréable pour nous, mais quelquefois c'est la réalité. Le problème vient souvent de notre attitude négative. Allez, je cite un exemple. Personne n'est concerné, en tout cas à Saumur on est tous parfaits, donc je parle peut-être dans le vide. Vous savez, rien ne va en ce moment, on m'attaque de tous les côtés, mes collègues et mon patron me causent des problèmes, des soucis, je pense qu'ils sont jaloux. C'est eux le problème. C'est pas moi le problème. Moi, je pense qu'ils sont jaloux de ce que je suis, de ce que je fais. Et voilà. On se remet pas en question. Les fautifs, c'est les autres. Ou avec notre conjoint, on peut dire, voilà, mon conjoint ne partage pas ce que je vis. En fait, il est vraiment trop centré sur lui-même. Ou ma famille me fait des sales tours. De toute façon, ils comprennent rien à ce que je vis. À l'église, les responsables, les leaders, ils ont osé me faire des remarques. À chaque fois, ça tombe sur moi, et ils ont des égos surdimensionnés. Voilà la liste, on peut faire fou. Je pourrais faire plein de listes. Et vous, peut-être, mes frères et sœurs, ce matin, vous pourrez dire, oui, ouais, peut-être que j'ai déjà vécu ça. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est pas un problème, il s'agit d'avancer sur le sujet. Et c'est pour ça que le Seigneur, Jésus, nous appelle à regarder non pas ce que font les autres, mais à notre propre cœur. Notre propre cœur à la lumière de la croix. Et c'est mon premier point. Premier point, c'est ce qui est dans le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Pour ça, on va faire une petite expérience ce matin. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas de la magie, une expérience toute simple. J'ai une bouteille d'eau. Je vais secouer cette bouteille d'eau. Ouais. Bon voilà, je me suis un peu mouillé. Pourquoi je suis mouillé? Parce que quelqu'un a dit il n'y a pas de bouchon. Non, c'est pas la réponse. Parce que j'ai secoué la bouteille, non. Parce qu'il y a de l'eau. Je peux secouer une bouteille vide, ça fera rien. Une bouteille vide, même sans bouchon, ça fera rien. C'est parce qu'il y a de l'eau que je suis mouillé. Et quelque part ici, c'est les circonstances, c'est pas le problème dans nos vies. Quand quelque part on vit des circonstances de la vie qui sont difficiles, qui nous perturbe, quelque part, nous, on va accuser les circonstances. On va dire, on secoue la bouteille, c'est ça le problème. Le problème, c'est pas les circonstances, c'est nos attitudes, c'est ce qui sort du cœur. C'est pour ça que Jésus, ici, est venu remplir notre cœur de son esprit, afin que lorsqu'on nous secoue, ce soit l'esprit du Christ qui sorte. Et l'esprit du Christ, c'est la douceur, la patience, la compassion, la vérité, son humilité. Cette bouteille, si je la remplis de boue et qu'elle n'est pas secouée par la vie, personne n'y verra rien. Mais lorsqu'elle je la secoue, c'est de la boue qui sortira. Et en général, quand c'est de la boue qui sort, on se rend compte qu'on fait du mal. Qu'est-ce qu'on fait? On accuse les circonstances. On a secoué la bouteille, le bouchon il était ouvert. Non, 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 non. C'est ce qui est sorti, qui vient de toi. Les circonstances n'ont fait que révéler ce qui venait du cœur. Mais c'est pas ça le souci. Le souci, c'est ton cœur. S'il était rempli d'autres choses, ton attitude serait différente. Et ce seraient du coup les caractéristiques du Christ qui sortiraient. La vie chrétienne, mes frères et sœurs, ce matin, ce n'est pas essayer de mieux se contrôler. Vous verrez, c'est impossible. C'est d'être rempli de celui qui est capable de nous faire vivre autre chose, du Christ. C'est ce que je prêche depuis maintenant, je ne sais pas combien de temps. Lui seul est capable, quelque part, dans nos circonstances, si nous vivons le Christ, ce qui sortira de nous, ce seront des attitudes positives. Des attitudes qui révèlent ce que Jésus est. Humainement, c'est impossible. On peut peut-être tenir une fois, mais celui qui a habité de l'Esprit du Seigneur est capable, dans les circonstances difficiles, d'expérimenter la douceur, la patience, la compassion. Au lieu de la colère, de l'aigreur, qui peuvent être justifiées selon les circonstances, mais ces attitudes-là, je les choisis. Ce n'est pas les autres le problème, c'est moi ce que je décide de faire. Ça va ? Du coup, je vous propose deux textes à lire qui résument un peu cela. J'ai mis le texte de Pauline. Matthieu 15, verset 18 et Proverbes 23, verset 6 à 7. C'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème. Voilà ce qui rend l'homme impur. Jésus ne dit pas que c'est les circonstances de la vie. Il ne dit pas que c'est ce qui rentre dans l'homme. C'est ce qui sort du cœur. Dans le contexte de ce passage-là, et vous le lirez chez vous, Jésus répond aux pharisiens. Les pharisiens qui, dans leur attitude, ici, sont mauvais. Jésus va dire, faites ce qu'ils disent, mais pas ce qu'ils font. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ce n'est pas les sources de la vie, ce n'est pas Dieu qui habite en eux. Leur attitude est sclérosée. Ils sont malades de cette maladie. Et ils ne voient pas le problème. Le problème, c'est Jésus. C'est la foule, c'est les Romains, c'est tout le monde, sauf eux. Et combien, quelquefois, mes frères et sœurs, nous sommes un peu comme des pharisiens. À voir, quelque part, le mal partout, sauf chez nous. Et nous pensons que le Christ, que le Saint-Esprit habite dans notre cœur, alors que concrètement, tous les jours qui passent, n'est pas le fruit que l'on voit. Le fruit que l'on voit, ce n'est pas l'eau qui sort, qui mouille là, qui m'a bien mouillé, c'est de la boue. Ou c'est du sable, le sable même, ça sort même pas de la bouteille, ça sortira même pas de la bouteille. Ou voire même c'est rien, une bouteille vide, si je veux la secouer, il n'y a rien qui sort. Dieu nous appelle que des sources d'eau vive jaillissent de notre cœur. Et puis ce texte dans le proverbe, ne mange pas le pain de l'homme au regard malveillant, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Quand l'attitude d'une personne est mauvaise, eh bien, il y a un problème dans le cœur. Et par conséquent, nous ne devrions pas croire tout ce qui sort de la bouche. Il vaut mieux croire ce qu'on perçoit des attitudes. Les attitudes, c'est concret. C'est pas le blabla des paroles, c'est ce qui sort ici du cœur. On peut cacher beaucoup de choses. Beaucoup de choses aux autres, et bien souvent, et je me mets dedans, on est fait comme ça. On va montrer aux autres notre meilleur regard, quelque part notre meilleur masque. Et quand, quelque part, on va voir notre réelle attitude, c'est quand les circonstances de la vie nous bousculent, comme la bouteille d'eau que je viens de secouer. Et notre attitude, du coup, finit toujours par nous révéler, et soit elle révèle le Christ, soit elle révèle notre propre nature. Une nature qui a besoin, quelque part, d'être transformée par l'action du Saint-Esprit. Comme je disais tout à l'heure, et c'est mon deuxième point, notre attitude ici aussi affecte nos relations. On n'est pas tout seul. On vit dans une société, dans des groupes, nos familles, nos conjoints, nos collègues de travail. Et du coup, ces attitudes sclérosées, elles atteignent les autres. Quand une mauvaise attitude se manifeste, je l'ai dit tout à l'heure, bien souvent, que ce soit la critique, que l'on soit irrité, agressif, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche des excuses. Et on accuse des circonstances. Aujourd'hui, vous savez, je suis fatigué, j'ai une mauvaise journée, j'ai mal dormi cette nuit, je suis stressé par telle ou telle chose, des choses qui sont vraies. Mais du coup, on cherche des excuses alors que ce n'est pas une vraie excuse. C'est juste les circonstances de la vie qui révèlent ce que je vis ou ce que je ne vis pas. Toutes les circonstances que nous nous trouvons ne sont pas responsables de ce qui était déjà à l'intérieur de la bouteille. Et ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes, quelque part, il est toujours là. Je donne un exemple d'un père de travail, peut-être qui rentre chez lui et qui crie excessivement sur ses enfants parce que voilà, c'est mon enfant, il a joué, il a crié un peu trop fort. Et du coup, sa femme qui va le regarder en disant « Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive, lui ?» Aujourd'hui, ben, il est un peu mal luné. Et le père qui va se justifier en disant « Vous savez, je suis très fatigué, j'ai mal à la tête. » Alors que la réalité, c'est juste que cet homme-là, ça fait des mois qu'il nourrit de l'amertume envers son patron, son travail, et ça déborde sur sa famille. L'excuse, c'est pas sa fatigue. C'est ce qu'il nourrit depuis des mois. Qu'on peut comprendre, mais qu'il nourrit. Qu'il n'a pas déposé au pied du Seigneur. Et notre attitude ici révèle ce qui remplit nos cœurs. Ce qui nous prend la tête va remplir notre cœur. Alors bien sûr, on est humain, il y a beaucoup de choses qui vont nous prendre la tête. Mais le chrétien, ce qu'il est appelé à faire, c'est les déposer au pied de la croix. Pour que ces choses-là ne viennent pas accaparer, voler notre joie, voler notre attitude, qui doit être celle du Christ. Et ça, c'est notre responsabilité. Notre attitude, du coup, qui peut être sclérosée, atteinte de cette maladie, elle peut affecter notre conjoint, nos enfants, nos amis, nos collègues, même les frères et sœurs en Christ, l'Église. Elles peuvent toucher, finalement, tous ceux à qui nous parlons. Et Christ, Jésus, veut restaurer notre relation. Il veut restaurer nos relations avec les autres, parce qu'à la croix, il a détruit les murs entre Dieu et nous, mais aussi les murs entre nous et notre prochain. Et il veut restaurer tout cela. Une attitude façonnée par Jésus répare ce que notre humanité, ce que notre chair détruit. Du coup, je vous pose la question ce matin, à chacun personnellement, quand on te secoue, quand la vie te secoue, quand un lundi matin, par exemple demain matin, peut-être que je ne sais pas comment ça va être ton lundi matin, peut-être qu'il y a des éléments qui vont secouer ta vie. Peut-être que ton enfant, peut-être qu'il va te prendre la tête, c'est le rôle d'un enfant, et c'est un enfant, il grandit. Peut-être que ton collègue il va être désagréable, que ton patron va être désagréable. Qu'est-ce qui va sortir de toi? Quand on secouera la bouteille de ton cœur, qu'est-ce qui sortira de toi? Et à cette réponse, quelque part, ça permet de voir si nous sommes atteints de cette maladie, de l'attitude sclérosée ou pas. Est-ce que c'est l'attitude du Christ ou est-ce que c'est ma propre chair qui parle? Et si c'est notre propre chair qui parle, Jésus nous appelle à venir à lui, avec nos blessures, avec notre colère, avec nos fatigues, tout ce qui nous charge. Il est celui qui est capable de guérir ceux qui nous chargent, pour mettre en nous ici les sources d'eau vive, de paix, de joie, d'abondance, de patience, qui viendront bénir ma vie, mais aussi celle des autres. Puis le dernier point, c'est notre attitude dépend de nos choix. Notre attitude, elle dépend toujours de nos choix. Parce que Dieu nous a créés libres de choisir. Jacques l'a un peu rappelé ce matin tout à l'heure. Dieu nous a créés libres de choisir. Alors vous pourrez me dire, oui, mais on ne choisit pas toujours ce qui nous arrive. Ça c'est vrai. On ne choisit pas ce qui nous arrive. Et on peut toujours choisir de décider d'agir selon ce qui nous arrive. Notre positionnement dans nos situations, ça on peut le décider. On ne choisit pas les circonstances, qui va secouer la bouteille, mais le contenu de la bouteille, ça on le choisit. Le chrétien ne veut pas dire que ça tombe du ciel. Nous avons un Dieu qui est venu ici-bas pour nous donner du coup cette possibilité de le choisir dans notre vie. Je raconte ce témoignage, un témoignage vrai. C'est un homme qui s'appelle Robert. Robert, il avait une maladie assez particulière, assez grave, et assez triste, il avait les mains tordues. Les membres, en fait, étaient tordus. Du coup, ses mains étaient tordues, et ses pieds aussi étaient tordus. Il n'avait plus l'usage de ses pieds et de ses mains, donc il ne pouvait pas se laver tout seul, se nourrir, se brosser les dents, se coiffer, s'habiller. Du coup, même ses vêtements étaient tenus par des bandes velcro pour pouvoir s'habiller plus simplement. Et j'ai vu une vidéo où il se roule pour s'habiller. C'est assez triste hein, comme vie. Sa maladie l'empêchait de conduire une voiture, de faire du vélo, d'aller se promener quand il voulait, parce qu'il était en chaise ici roulante. Mais cela ne l'empêcha pas d'étudier, de passer son bac et de le réussir, d'aller à l'université, d'obtenir même une maîtrise en latin. Et cette maladie ne va pas non plus l'empêcher d'enseigner le latin dans un lycée, et puis même de partir au Portugal, en tant que missionnaire au Portugal en 1972. Il va s'installer à Lisbonne, il ne connaît personne, il ne parle pas portugais. Et Roger, il va apprendre le portugais. Il va louer une chambre d'hôtel, il va apprendre le portugais et chaque jour, il va aller au parc de la ville pour distribuer des tracts chrétiens. Et c'est un vrai défi pour lui puisqu'il est en chaise roulante, il doit se débrouiller. Mais il va distribuer des tracts chrétiens pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Roger est motivé, hein. Et en 6 ans, Robert, qui pouvait pas faire grand-chose, hein, comme on peut l'imaginer... Oui, c'est Roger. Excusez-moi, je confonds là, je commence à changer les noms. Roger, du coup, ici, qui ne pouvait pas faire grand-chose, Roger, ici, va amener 70 personnes à Christ. À Lisbonne, 70 personnes pendant 6 ans vont venir au Seigneur. Parce que, ici, Robert a su toucher. Ici, Roger, oula, je confonds les prénoms là ce matin. Roger a su ici toucher, en tout cas, et être un vecteur ici de ce que Dieu peut faire à travers lui. Parmi une de ces personnes, Roger va trouver son épouse, qui va devenir chrétienne, Rosa, avec qui il va se marier. Et du coup, c'est une vie assez particulière qu'il a ici, Roger. Et lorsqu'il prêchait, il va implanter une église à Lisbonne, Roger. Il ne va pas s'arrêter juste à distribuer des tracts, il va implanter une église. Et lorsqu'il prêchait, quelqu'un devait le pousser sur son fauteuil roulant pour le pousser, l'amener jusqu'à l'estrade. Il n'était pas autonome, cet homme. Il ouvrait alors sa Bible, qui était sur ses genoux, il tournait les pages très lentement, très péniblement. Parce que voilà, ses mains étaient ce qu'elles étaient. Mais quand il était sur l'estrade, lorsqu'il prêchait, il lui arrivait souvent de lever en l'air sa main toute tordue. Et de dire tout haut et fort, j'ai tout ce qu'il me faut pour être heureux. Ça, c'est une attitude qui respire le Christ. Roger ici ne s'est pas apitoyé sur son sort, n'a pas accusé Dieu des circonstances de la vie, et pourtant la bouteille de Roger, elle a été bien secouée. Mais ce qui est sorti de Roger, c'est les eaux du Seigneur Jésus, du Dieu qui donne la vie. Nous avons tous nos membres. Et quelquefois, nous sommes plus malades que Roger. Je me mets dedans. Hein. On a plus tendance à râler. J'ai pris Roger parce que Roger, il est français. Et nous, français, cette maladie de latitudinose sclérose, on est les premiers peut-être à être les plus atteints. Parce que nous, français, on aime râler. On aime râler. Je l'ai pas mis, mais je vais le citer. On avait une pastorale la semaine dernière. Il y avait un frère de Pologne, président des Assemblées de Dieu de Pologne, qui nous racontait voilà que ils ont eu une discussion. Alors voilà, je passe les détails, mais où les églises ont dû voter sur un sujet voilà d'actualité, comment les églises se positionnaient. C'est passé à 2 voix près. Et il m'a dit, tout le monde s'est soumis. Il n'y a pas eu de vague. Nous, on a rigolé quand il nous a dit ça. Parce que si chez nous, on avait fait ça et que c'était passé à 2 voix près, on aurait entendu les 48 autres râler. Hein. Il n'y aurait pas eu « Ok, on est tous d'accord, on avance ». Non, non, on aurait dit « Attends, il n'y a que 2 voix de près, on n'est pas unis et on va râler. » Et ça montre que chez nous, cette capacité à râler, qui peut être positive hein, par moment, elle peut nous atteindre et dans notre vie spirituelle, ce n'est pas possible. Nous devons être des vecteurs. Roger, il est français. Et pourtant, malgré sa maladie, parce qu'il a donné sa vie à Dieu à un moment, c'est des sources d'eau vive qui en sont ressorties. Roger ici, il avait toutes les raisons d'être amer, mais il a choisi une attitude renouvelée par le Saint-Esprit. C'est pas le seul. On a l'apôtre Paul. Paul, il va écrire ceci, j'ai mis le texte, Pauline. J'ai en effet appris à me contenter toujours de ce que j'ai. Paul écrit ici aux Philippiens alors qu'il est en prison. Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances, que j'ai de quoi me nourrir ou que j'ai faim, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Paul ne dit pas qu'il peut tout parce qu'il est fort. Il n'est pas fort, Paul. Mais il peut tout parce que Jésus habite en lui. Et du coup, son attitude change, parce que son regard change. Ce n'est pas notre volonté qui nous rend stable, c'est le Christ qui vit en nous, sur lequel nous pouvons nous appuyer. Frères et sœurs, ce matin, je vais mettre trois points sur lesquels on doit veiller, c'est veiller sur nos pensées. La Bible nous parle de veiller sur nos pensées parce que nos pensées nourrissent nos attitudes. Il y a un lien très direct entre nos pensées et notre attitude. Veiller sur nos pensées, c'est chercher à penser comme Jésus pense. Qu'est-ce que Jésus pense? Est-ce que je pense comme Dieu? Paul va encourager les mêmes chrétiens de Philippe, juste avant ce passage. Philippiens 4, verset 8, je ne sais pas si je l'ai mis, Pauline. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Se nourrir de bonnes choses. Autrement dit, il faut filtrer ce qui rentre par nos oreilles, par nos yeux, ce qui vient quelque part alimenter nos pensées. De la même manière qu'il ne vous viendrait jamais à l'idée de venir vous nourrir dans les poubelles de votre voisin, personne ne fait ça sauf s'il est fou, il s'agit de ne pas se nourrir des poubelles des autres. Quand j'entends, ou quand dans mon entourage, peu importe qui ça peut être, j'entends des ragots, des infos toxiques, des plaintes permanentes, du contenu qui nourrisse l'amertume, je dois, c'est ma responsabilité, de dire stop. Pour pas que moi-même je me pourrisse. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, je l'ai déjà expérimenté, donc peut-être que vous aussi. Hein. Sans se rendre compte des fois, parce qu'on aime des fois, les personnes qui, on les aime bien les personnes qui nous entourent. Et entendre des fois leurs plaintes, c'est pas négatif. Hein. Mais la frontière, elle peut être très, très mince. Entre la plainte de quelqu'un qui souffre et celui qui se plaint pour plaindre. Qui à chaque fois se plaint. Et du coup, même si on est chrétien, même si on est habité par l'Esprit de Dieu, si on ne s'est pas coupé, les poubelles des autres vont venir dans notre cœur et vont alimenter du coup nos pensées qui vont jouer sur nos attitudes. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Et c'est pour cela que dans toute la Bible, Dieu parle, et a systématiquement, Jacques va beaucoup en parler, de la parole, de la langue. Veillez sur nos pensées, ceux qui peuvent atteindre nos attitudes, ceux qui peuvent encrasser nos artères spirituelles, les rendre dures, rigides. Pour veiller à cela, Paul recommande une chose, et il n'y a qu'une seule chose, c'est un cœur à cœur avec le Seigneur régulier. Quotidien. Celui qui passe du temps avec le Seigneur quotidiennement, régulièrement, se laissera impacter par la présence de Dieu, par le Saint-Esprit. Il saura discerner ce qui vient de Dieu, ce qui vient de lui. Il saura faire la part des choses. Si par contre tu passes du temps avec le Seigneur que le dimanche matin, possiblement, du coup, tu peux être atteint par l'attitude sclérosée. Parce que tu ne sauras pas ce que Dieu, quelque part, veut, ce qu'il dit. Et tu seras plus atteint par les paroles des autres, plus que par la parole même de Dieu. Et ce n'est pas 30 minutes le dimanche matin, mes frères et sœurs, qui changeront quoi que ce soit. Si nos pensées sont alimentées par une nourriture saine, notre attitude sera saine. Si je ne passe pas du temps avec le Seigneur, mon attitude ici risque d'être mauvaise. L'autre point, c'est les paroles. À part les pensées, il y a les paroles, les deux sont très liés. Hein. Jacques va dire ceci, notre langue met le feu à notre vie, de la naissance jusqu'à la mort. Elle est terrible cette phrase, mais c'est la réalité de nos vies. Notre langue, nos paroles créent l'atmosphère dans laquelle nous vivons. Lorsque nos paroles sont positives, nous créons un environnement sain, aimant, positif. Lorsque nos paroles sont négatives, nous créons une atmosphère ici de tristesse, d'abattement autour de nous. Qu'est-ce que fait Jésus ? Quand Jésus y parle, il encourage. Qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Au niveau des paroles. Vous avez une idée ? À part encourager. Il guérit, tout à fait. Autre chose ? Il console. Il corrige. Bon, ça, c'est ce qu'on aime un peu moins, mais il corrige dans la bienveillance, mais il corrige, oui. Il réenseigne. Il aime. Toutes les paroles de Jésus vont être positives. À nous ici de faire de même. Et ce matin, je vous donne un défi, mes frères et sœurs. À partir d'aujourd'hui, même dès cette semaine, mais même à partir de cet après-midi, à chaque personne que tu croises, que ce soit ton conjoint, ton enfant, ton voisin, un frère et sœur ici de l'église, la caissière de ton supermarché, peu importe, dis quelque chose qui encourage. Au lieu de voir toujours le négatif, on est comme ça. Voir le négatif, c'est tout le monde, hein. On le voit facilement. Je donne un exemple. Voilà, ça va. Imaginons que la sono, là, elle déconne, que mon micro, il coupe tout le temps. J'aurais plus de facilité à critiquer l'équipe de sono qui est derrière, à leur dire, là, ça va pas. Voilà, exemple. Ça, c'est plus facile à faire. Par contre, encourager. Naturellement, c'est pas ce que nous faisons naturellement. Et pourtant, nous devons nous encourager les uns les autres. Pas simple, hein ? Je vous propose ce défi, faites-le. Vous allez voir que si vous le faites, au lieu des paroles négatives qui peuvent sortir, vous verrez d'ici l'ambiance autour de vous changer. Parce que si on sème bien, on récoltera aussi bien. Quelqu'un qui est encouragé, qui est béni, il nous fera du bien. Quelqu'un que l'on critique derrière le dos ou pas d'ailleurs, en fait, ça se retournera contre nous à un moment ou à un autre. Hein. Et puis le dernier point, c'est veiller sur le regard. C'est en lien aussi avec les paroles. Quel regard je porte sur l'autre ? J'avais fait un enterrement, c'était pas ici à Saumur, c'était dans l'église d'avant, d'un jeune homme qui est décédé assez jeune. Accident de voiture, voilà, un accident assez tragique. Il avait 33 ans, ce jeune homme-là. Et voilà, des enterrements, j'en fais plein. Bon, voilà, c'est la vie, ça fait partie aussi du lot quand on est pasteur. Mais cet enterrement, il m'a beaucoup touché. Parce que ce jeune homme-là, du coup, il y a eu beaucoup de témoignages lors de ses obsèques. Et il y a eu tous, et certains, et beaucoup même se connaissaient pas, ceux qui ont parlé. Il y a eu des collègues de travail, de la famille, des amis, même des personnes qui venaient de loin pour assister à ses obsèques. Et ils ont tous dit la même chose. Cet homme voyait toujours le meilleur chez les gens. Un truc, bon, de toute façon, il est décédé maintenant, mais un exemple qui m'a marqué. Alors voilà, cet homme, voilà, je pense qu'il n'était pas forcément pro-Macron. Bon, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça, de toute façon, maintenant. Et en fait, quand il entendait, du coup, des Français critiquer même le président, il cherchait toujours le positif. Alors que lui-même, il ne partageait pas tout. Hein. Il n'était pas fervent défenseur. Mais quelque part, il essayait de trouver le positif dans toutes les situations, même sur celui envers qui il ne partageait pas les idées. Ça, c'est quelqu'un qui s'aime bien. Et du coup, il y a son patron qui était là, qui a parlé. Tout le monde y est passé. Et je suis sûr que toujours ces personnes-là, ils avaient des défauts. Hein. Bon, c'était un obsèque que j'allais pas leur demander. Hein. Mais c'est sûr. Et pourtant, quand on les voyait parler, ils étaient bénis. Ils ont été bénis. Dans leur vie, cet homme-là, il a vu le positif qu'il y avait chez eux. Il a pas inventé des choses, hein. Il a su voir le positif qu'il y avait dans leur vie. Comme le Seigneur, mes frères et sœurs, c'est ce que le Seigneur fait avec nous. Si le Seigneur dans nos vies devait regarder ce qui n'allait pas, il pourrait, hein. C'est peut-être le seul qui pourrait, mais ce n'est pas ce qu'il fait. Le Christ en nous voit ce qu'il a déjà fait en nous. Et il nous pousse, même lorsque nous-mêmes ne croyons pas en nous, il nous pousse. Il nous encourage. À nous d'avoir les bons regards, de voir dans la situation d'une personne de notre entourage, qu'est-ce qu'il y a de positif chez lui. Et de lui dire, Si tu fixes les défauts des gens, tu deviendras aigri. Si tu fixes l'œuvre de Dieu, ton cœur s'adoucira. Jésus regardait la valeur des personnes, ce que Dieu faisait dans les vies, et c'était la grâce avant la faute. Pour conclure, j'ai invité le groupe de louanges à s'approcher, prendre un chant, justement, qui vous permettra aussi de nous remettre en question. Je ne vais pas forcément faire un temps de prière ce matin, mais ça nous concerne tous qu'on puisse en tout cas chanter ce chant dans un esprit de recueillement. Et Seigneur, viens changer ce que je suis. Ce qu'on nous demande à Dieu ce matin, c'est pas une meilleure attitude. Ça, sûrement une meilleure attitude, on sera déçus. C'est un cœur transformé. C'est beaucoup plus profond. Un cœur transformé par le Christ. Seigneur, viens vraiment habiter en moi. Pas juste dans mes paroles, mais que c'est toi qui conduises mon attitude. Pour que mon attitude ne soit pas sclérosée, ne soit pas atteinte. Cette maladie, l'attitude aux scléroses, elle ne touche pas les non-chrétiens. Je vais parler vrai. Est-ce que vous pensez que je parle vrai? Dans les églises, les problèmes, ce n'est pas les non-chrétiens, c'est les chrétiens. Ce que je dis, vous pourrez demander à n'importe quel pasteur, il vous le dira la même chose. C'est les chrétiens qui prennent la tête. Pourquoi? Parce que les non-chrétiens, il y a une soif. Il y a une soif de Dieu. Naturelle, simple. Une écoute. Un cœur d'enfant. Mais nous, chrétiens, je me mets dedans. On devient dur. On se met à des positions où on pense être quelqu'un que l'on n'est pas. Ça, c'est l'attitude d'une sclérose. L'attitude qui est atteinte par la non-simplicité. On parle bien. On a tous les langages du chrétien, mais on ne vit rien. Jésus ici est capable ce matin de transformer nos attitudes. Cette semaine, et j'ai préparé ce message depuis un petit moment, voilà, j'avais fait la thématique depuis longtemps, hein, j'ai eu moi-même, et ça m'a encore plus parlé, un moment besoin de pardonner à quelqu'un. Parce que voilà, il y a eu une prise de tête, et dans mon attitude, il y a quelque chose qui n'a pas été. Et pourtant, et voilà, je me suis vu, hein, j'ai été tenté d'accuser les circonstances. Alors que ce n'était pas les circonstances le problème. C'est quelque part, j'ai mal réagi. Il y a quelque chose qui n'a pas été. Et c'est avoir le courage de se dire, Seigneur, viens ici travailler en moi. Première étape ici, ce n'est pas le déni, c'est la réalité. On va chanter ce chant. Et je vous propose du coup à chacun de nous de pouvoir nous questionner, nous remettre dans les mains du Seigneur. Et si vous le voulez, voilà, priez, mais voilà, on passera après ensuite au temps de Sainte-Seine.